Landry ne pouvait pas deviner cette jalousie de son frère, car de son naturel, il n'avait eu quant à lui jalousie de rien en sa vie. Lorsque Sylvinet venait le voir à la priche, Landry, pour le distraire, le conduisait voir les grands bœufs, les belles vaches, le beubriage conséquent et les grosses récoltes du fermage au père Caillot. Car Landry estimait et considérait tout cela, non par envie, mais pour le goût qu'il avait au travail de la terre, à l'élevage des bestiaux, et pour le beau et le bienfait dans toutes les choses de la campagne. Il prenait plaisir à voir propre, grasse et reluisante la pouliche qu'il menait au pré, et il ne pouvait souffrir que le moindre ouvrage fût fait sans conscience, ni qu'aucune chose pouvant vivre et fructifier fût délaissée, négligée et comme méprisée, et mis les cadeaux du bon Dieu. Sylvinet regardait tout cela avec indifférence et s'étonnait que son frère prît tant à cœur des choses qui ne lui étaient de rien. Il était ombrageux de tout et disait à Landry « Te voilà bien épris de ces grands bœufs. Tu ne penses plus à nos petits taurins qui sont si vifs et qui étaient pourtant si doux et si mignons avec nous deux qu'ils se laissaient lier par toi plus volontiers que par notre père. Tu ne m'as pas seulement demandé des nouvelles de notre vache qui donne du si bon lait et qui me regarde d'un air tout triste, la pauvre bête, quand je lui porte à manger, comme si elle comprenait que je suis tout seul et comme si elle voulait me demander où est l'autre besson. » « C'est vrai qu'elle est une bonne bête, disait Landry. Mais regarde donc celle-ci. Tu les verras traire, et jamais de ta vie tu n'auras vu tant de lait à la fois. » « Ça se peut, reprenait Sylvinet. Mais pour être d'aussi bon lait et d'aussi bonne crème que la crème et le lait de Brunette, je gage bien que non, car les herbes de la buissonnière sont meilleures que celles de par ici. » « Diantre, disait Landry, je crois bien que mon père échangerait pourtant de bon cœur si on lui donnait les grands foins du père Caillot pour sa joncière du bord de l'eau. »« Bah, reprenait Sylvinet en levant les épaules, il y a dans la joncière des arbres plus beaux que tous les vôtres, et tant qu'au foin, s'il est rare, il est fin, et quand on le rentre, c'est comme une odeur de baume qui reste tout le long du chemin. » Ils disputaient ainsi sur rien, car Landry savait bien qu'il n'est point de plus bel avoir que celui qu'on a, et Sylvinet ne pensait pas à son avoir plus qu'à celui d'autrui, en méprisant celui de la priche. Mais au fond de toutes ces paroles en l'air, il y avait d'une part l'enfant qui était content de travailler et de vivre n'importe où et comment, et de l'autre, celui qui ne pouvait point comprendre que son frère eût à part de lui un moment d'aise et de tranquillité. Si Landry le menait dans le jardin de son maître et que tout en devisant avec lui, il s'interrompit pour couper une branche morte sur une hante, ou pour arracher une mauvaise herbe qui gênait les légumes, cela fâchait Sylvinet, qu'il eut toujours une idée d'ordre et de service pour autrui, au lieu d'être comme lui à l'affût du moindre souffle et de la moindre parole de son frère. Il n'en faisait rien paraître parce qu'il avait honte de se sentir si facile à choquer, mais au moment de le quitter, il lui disait souvent « Allons, tu as bien assez de moi pour aujourd'hui, peut-être bien que tu en as trop et que le temps te dure de me voir ici. » Landry ne comprenait rien à ces reproches-là. Il lui faisait de la peine et à son tour, il en faisait reproche à son frère qui ne voulait ni ne pouvait s'expliquer. Si le pauvre enfant avait la jalousie des moindres choses qui occupaient Landry, il avait encore plus fort celle des personnes à qui Landry montrait de l'attachement. Il ne pouvait souffrir que Landry fût camarade et de bonne humeur avec les autres gars de la priche, et quand il le voyait prendre soin de la petite Solange, la caresser ou l'amuser, il lui reprochait d'oublier sa petite sœur Nanette, qui était à s'en dire 100 fois plus mignonne, plus propre et plus aimable que cette vilaine fille-là. Mais comme on n'est jamais dans la justice quand on se laisse manger le cœur par la jalousie, lorsque Landry venait à la baissonnière, il paraissait s'occuper trop, selon lui, de sa petite sœur. Sylvinet lui reprochait de ne faire attention qu'à elle et de n'avoir plus avec lui que de l'ennui et de l'indifférence. Enfin, son amitié devint peu à peu si exigeante, son humeur si triste, que Landry commençait à en souffrir et à ne pas se trouver heureux de le voir trop souvent. Il était un peu fatigué de s'entendre toujours reprocher d'avoir accepté son sort comme il le faisait, et on eût dit que Sylvinet se serait trouvé moins malheureux s'il eût pu rendre son frère aussi malheureux que lui. Landry comprit et voulut lui faire comprendre que l'amitié, à force d'être grande, peut quelquefois devenir un mal. Sylvinet ne voulut point entendre cela et considéra même la chose comme une grande dureté que son frère lui disait, si bien qu'il commença à le bouder de temps en temps et à passer des semaines entières sans aller à la priche, mourant d'envie pourtant de le faire, mais s'en défendant et mettant de l'orgueil dans une chose où jamais il n'y aurait dû y en entrer un brin. Il arriva même que, de parole en parole et de fâcherie en fâcherie, Sylvinet reprenait toujours en mauvaise part tout ce que Landry lui disait de plus sage et de plus honnête pour lui remettre l'esprit. Le pauvre Sylvinet en vint à avoir tant de dépit qu'il s'imaginait par moments haïr l'objet de tant d'amour et qu'il quitta la maison un dimanche pour ne point passer la journée avec son frère, qui n'avait pourtant pas une seule fois manqué d'y venir. Cette mauvaiseté d'enfant chagrina grandement Landry. Il aimait le plaisir et la turbulence, parce que chaque jour il devenait plus fort et plus dégagé. Dans tous les jeux, il était le premier, le plus subtil de corps et d'œil. C'était donc un petit sacrifice qu'il faisait à son frère de quitter les joyeux gars de la Priche chaque dimanche pour passer tout le jour à la Bessonnière, où il fallait point parler à Sylvinet d'aller jouer sur la place de la Causse, ni même de se promener ici ou là. Sylvinet, qui était resté enfant de corps et d'esprit beaucoup plus que son frère, et qui n'avait qu'une idée, celle de l'aimer uniquement et d'en être aimé de même, voulait qu'il vînt avec lui tout seul dans leur endroit, comme il disait, à savoir dans les recoins et cachettes où ils avaient été s'amuser à des jeux qui n'étaient maintenant plus de leur âge, comme de faire de petites brouettes d'osier, ou petits moulins, ou saulnés à prendre les petits oiseaux, ou encore des maisons avec des cailloux et des champs grands comme un mouchoir de poche que les enfants font mine de labourer à plusieurs façons, faisant imitation en petit de ce qu'ils voient faire aux laboureurs, semeurs, herseurs et moissonneurs, et s'apprenant ainsi les uns aux autres dans une heure de temps toutes les façons, cultures et récoltes que reçoit et donne la terre dans le cours de l'année. Ces amusements-là n'étaient plus du goût de Landry, qui maintenant pratiquait ou aidait à pratiquer la chose en grand et qui aimait mieux conduire une grande charroie à 6 bœufs que d'attacher une petite voiture de branchage à la queue de son chien. Il aurait souhaité d'aller s'escrimer avec les forts gars de son endroit, jouer aux grandes quilles, vu qu'il était devenu adroit à enlever la grosse boule et à la faire rouler à point à 30 pas. Quand Sylvinet consentait à y aller, au lieu de jouer, il se mettait dans un coin sans rien dire, tout prêt à s'ennuyer et à se tourmenter si Landry avait l'air de prendre au jeu trop de plaisir et de feu. Enfin, Landry avait appris à danser à la Priche, et quoique ce goût lui fût venu tard à cause que Sylvinet ne l'avait jamais eu, il dansait déjà aussi bien que ceux qui s'y prennent dès qu'ils savent marcher. Il était estimé danseur de bourrée à la Priche, et quoiqu'il n'eût pas encore de plaisir à embrasser les filles, comme c'est la coutume de le faire à chaque danse, il était content de les embrasser parce que cela le sortait, par apparence, de l'état d'enfant. Et il eût même souhaité qu'elles y fissent un peu de façon comme elles font avec les hommes. Mais elles n'en faisaient point encore, et mêmement les plus grandes le prenaient par le cou en riant, ce qui l'ennuyait un peu. Sylvinet l'avait vu danser une fois, et cela avait été cause d'un de ses plus grands dépits. Il avait été si en colère de le voir embrasser une des filles du père Caillot, qu'il avait pleuré de jalousie et trouvé la chose tout à fait indécente et mal chrétienne. Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiait son amusement à l'amitié de son frère, il ne passait pas un dimanche bien divertissant, et pourtant il n'y aurait jamais manqué, estimant que Sylvinet lui en saurait gré, et ne regrettant pas un peu d'ennui dans l'idée de donner du contentement à son frère. Aussi, quand il vit que son frère, qui lui avait cherché Castille dans la semaine, avait quitté la maison pour ne pas se réconcilier avec lui, il prit à son tour du chagrin, et pour la première fois depuis qu'il avait quitté sa famille, il pleura à grosses larmes et alla se cacher, ayant toujours honte de montrer son chagrin à ses parents et craignant d'augmenter celui qu'il pouvait avoir. Si quelqu'un eût dû être jaloux, Landry aurait eu pourtant plus de droit que Sylvinet. Sylvinet était le mieux aimé de la mère, et mêmement le père Barbeau, quoiqu'il eût une préférence secrète pour Landry, montrait à Sylvinet plus de complaisance et de ménagement. Ce pauvre enfant, étant le moins fort et le moins raisonnable, était aussi le plus gâté, et l'on craignait davantage de le chagriner. Il avait le meilleur sort, puisqu'il était dans la famille et que son besson avait pris pour lui l'absence et la peine. Pour la première fois, le bon Landry se fit tout ce raisonnement et trouva son besson tout à fait injuste envers lui. Jusque-là, son bon cœur l'avait empêché de lui donner tort, et plutôt que de l'accuser, il s'était condamné en lui-même d'avoir trop de santé et trop d'ardeur au travail et au plaisir, et de ne pas savoir dire d'aussi douces paroles, ni s'aviser d'autant d'attention fine que son frère. Mais, pour cette fois, il ne put trouver en lui-même aucun péché contre l'amitié, car, pour venir ce jour-là, Il avait renoncé à une belle partie de pêche aux écrevisses, que les gars de la Priche avaient comploté toute la semaine et où ils lui avaient promis bien du plaisir s'il voulait aller avec eux. Il avait donc résisté à une grande tentation et à cet âge-là, c'était beaucoup faire. Après qu'il eut pleuré, il s'arrêta à écouter quelqu'un qui pleurait aussi pas loin de lui et qui causait tout seul, comme si c'était assez la coutume des femmes de campagne quand elles ont un grand chagrin. Landry connut bien vite que c'était sa mère et il courut à elle. « Hélas, faut-il, mon Dieu, disait-elle en sanglotant, que cet enfant-là me donne tant de soucis, il me fera mourir, c'est bien sûr. »« Est-ce moi, ma mère, qui vous donne du souci ? » s'exclama Landry en se jetant à son cou. « Si c'est moi, punissez-moi et ne pleurez point. Je ne sais en quoi j'ai pu vous fâcher, mais je vous en demande pardon tout de même. » À ce moment-là, la mère connut que Landry n'avait pas le cœur dur comme elle se l'était souvent imaginé. Elle l'embrassa bien fort et sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle avait de peine, elle lui dit que c'était Sylvinet et non lui dont elle se plaignait. Que quant à lui, elle avait eu quelquefois une idée injuste et qu'elle lui en faisait réparation. Mais que Sylvinet lui paraissait devenir fou et qu'elle était dans l'inquiétude parce qu'il était parti sans rien manger avant le jour. Le soleil commençait à descendre et il ne revenait pas. On l'avait vu à midi du côté de la rivière, et finalement la mère Barbeau craignait qu'il ne s'y fût jeté pour finir ses jours.